Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Vive tension observée dans la nuit d'hier à ce samedi matin dans la ville de Butembo, Nord Kivu. Il s'agissait d'un groupe de manifestants qui entourait le corps de personnes tombées lors des manifestations anti-MONUSCO. Les services de sécurité ont réussi à calmer la situation. Le président de la République appelle la population calme après les manifestations anti-MONUSCO, tout en exprimant sa compassion aux familles des victimes tant de la population que des casques bleus. Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué que le processus de désengagement de la MONUSCO a déjà été lancé. Il a fait savoir hier aux 62e réunion du Conseil des ministres. Enfin, le territoire de Nyangara dans la province du Haut-Touélé fait face à la présence de plusieurs rebelles étrangers et des groupes armés locaux. Certains parmi eux organisent une administration parallèle. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Masikine Marindo, administrateur de ces territoires. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Vive tension à Butembo, Nord Kivu. Une foule de manifestants a été dispersée par des tirs de la police et de l'armée au rond-point VGH sur le boulevard Joseph Kabila dans la nuit de vendredi à ce samedi. Il s'agissait des manifestants qui entouraient les 9 corps des victimes des manifestations de mardi dernier anti-MONUSCO au quartier Kambali en commune de Vulamba. Ce samedi matin, la situation est sous contrôle des services de sécurité. Le détail avec Karine Topé.
Ces 9 corps qui étaient exposés au rond-point VGH ont été retirés de la morgue de l'hôpital Matanda autour de 17h30 par les manifestants qui les ont transportés au centre commercial pour une veillée mortuaire. Ils ont d'abord dévalisé un magasin de pompes funèbres où ils ont pris des cercueils sur rue Kinshasa, mais aussi une boutique sur la galerie GTB où ils ont récupéré des vestes prétextant à les vêtir les corps. À leur arrivée au rond-point VGH, quelques barricades ont été érigées sur le boulevard. D'après les témoins, des membres de famille des victimes assistaient impuissamment à la scène. Autour de 2h30 du matin, des militaires et policiers ont été déployés sur le lieu pour disperser les manifestants par des tirs. Ils ont ainsi pu récupérer les corps après une dizaine de minutes. Quelques blessés ont été signalés dans les rangs des manifestants. Leur nombre n'est pas encore connu. Maître Gédéon Mwassasi, président de l'association culturelle Kiandaira, siège de Butembo, annonce que son association a déjà amorcé des démarches afin de trouver un terrain d'entente entre les manifestants et les famille des victimes pour que les corps soient enterrés dans la dignité. D'après lui, des cas de dérapage ont été commis par des manifestants à l'égard des morts au regard de la coutume locale.
Pendant ces temps, à Beni, les activités socio-économiques reprennent timidement leur cours normal en ville ce samedi. Ceci après une série de manifestations anti-MONUSCO de 3 jours dans la ville. Ce matin, par exemple, plusieurs portes de commerce, les alimentations ainsi que les officines pharmaceutiques dans le quartier commercial de Matongé sont ouvertes, idem au marché central de Koulokwa. Les mototaxis ainsi que les voitures de transport en commun sont opérationnelles. Si tout est calme au centre-ville, certaines barricades sont encore visibles dans certains quartiers et celui de la commune Moulekira. Par ailleurs, les forces de l'ordre poursuivent les patrouilles pédestres pour sécuriser la ville. Pendant ce temps, le conseil urbain de la jeunesse de Butembo s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans la région, accentuée par les manifestations anti-MONUSCO. Tout en reconnaissant que la revendication de la population exigeant le départ de la MONUSCO est légale et noble, Franck Mukenzi, président de cette structure étatique, appelle les uns et les autres, particulièrement les jeunes, à la retenir et à revoir leur stratégie dans la lutte pour la pacification de la région sans faire recours à la violence. On écoute Franck Mukenzi au micro de Radio Kapi.
Nous devons encore essayer de retrousser nos marches, soit de se ressaisir parce que nous sommes dans une lutte où nous cherchons la paix dans notre zone, nous cherchons la sécurité, mais nos stratégies ne sont pas encore arrivées au bout. C'est pour cela que je prie à tout le monde, surtout les jeunes, tous ceux qui peuvent être en train de nous écouter, de comprendre que maintenant là, ça s'empire du jour le jour. Compte tenu de ce qu'il y a comme résultat jusque-là, nous sommes appelés encore une fois à revoir nos stratégies, à changer peut-être nos stratégies. C'est pour cela que je demande à tout et chacun de voir comment nous comporter encore une fois. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est travailler pacifiquement surtout. Si on peut voir encore d'autres stratégies pouvoir nous amener à la conquête, à conquérir, à gagner cette lutte, ça a beaucoup plus fait périr les gens. C'est ce que j'appelle aux gens de garder encore nos apaisements, de travailler ça plus beaucoup d'émotions pour qu'on voie comment est-ce qu'on va aboutir.
Au Sud Kivu, ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui expriment leur inquiétude sur l'utilisation des enfants dans des manifestations violentes accompagnées de destructions méchantes. Allusion faite aux manifestations anti-MONUSCO qui se sont déroulées depuis le début de la semaine au Nord et Sud Kivu. Ces militants des droits de l'homme menacent de traduire en justice toutes les personnes qui seraient impliquées dans l'utilisation des enfants. Mourabazi Namegabe, coordonnateur de la synergie des organisations des droits de l'homme, est au micro de Emmanuel Elamejiu Akabedi.
Ce qui est en train de se passer depuis le début de la semaine préoccupe les organisations qui sont engagées dans la défense des droits de l'homme dans le cadre de la protection des enfants. Comment une mission qui vient nous appuyer pour consolider la paix, on peut lui opposer la violence? Ça, c'est inexplicable. Nous, les militants des droits de l'homme, ce qui nous inquiète, c'est les violations flagrantes des droits de l'homme qui sont associées à des manifestations lorsqu'elles deviennent violente. Et je voulais rappeler aux adultes que c'est vraiment leur devoir de s'assurer que des enfants ne sont pas manipulés, que des enfants ne sont pas utilisés dans des manifestations violentes et dans des actes de destruction méchante. S'il y a eu des personnes qui sont impliquées pour manipuler les enfants, ou ces personnes pourront un jour répondre de leurs actes. Les enfants ont besoin de la paix, les enfants ont besoin de la protection des adultes, mais les enfants à aucun moment ne peuvent pas être utilisés dans des manifestations des adultes.
Alors, parlant de ces manifestations contre la MONUSCO, cette semaine à Goma, Beni, Butembo, Bukavu et Uvira, le président de la République appelle la population au calme. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier vendredi, au cours de la 62e réunion du Conseil des ministres tenue ici à Kinshasa. Il a aussi exprimé sa compassion aux familles des victimes, tant de la population que des casquets bleus. Le chef de l'État a indiqué que le processus de désengagement de la MONUSCO a déjà été lancé. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, extrait proposé par Alain Hirong.
Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020, a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retirée de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait réclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent les spectres du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations.
Et puis, sachez qu'une délégation ministérielle séjournait depuis hier soir à Goma, composée de trois ministres, dont celui de la sécurité et son homologue de l'action humanitaire. La délégation a déclaré être au Nord Kivu pour une mission officielle d'évaluation et de solidarité. La cellule de communication du gouvernorat de province, citant les ministres Asselo de l'Intérieur et Sécurité, précise qu'elle vient mener des actions ayant pour but de ramener la paix et pour assister la population qui a connu des morts et des blessés au courant de la semaine. Pour rappel, la population de Nord Kivu a exprimé ces derniers jours plusieurs inquiétudes, notamment face à l'occupation de Bunagana par le mouvement terroriste du M23, ainsi qu'une série de manifestations contre la présence de la MONUSCO. Autre nouvelle, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, est attendu en République démocratique du Congo le 9 et 10 août prochain, indique le communiqué du département d'État des États-Unis publié le 29 juillet. Il se concentrera sur le soutien aux initiatives régionales africaines visant à promouvoir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, indique le document. D'autres détails avec vous, Pierrot et la Mesio Akabine.
Le secrétaire d'État rencontrera des hauts responsables du gouvernement de la RDC et des membres de la société civile pour discuter de notre intérêt mutuel à assurer des élections libres, inclusives et équitables en 2023, à promouvoir le respect des droits humains et à protéger les libertés fondamentales, note le département d'État des États-Unis. Il se concentrera également sur la lutte contre la corruption, le soutien au commerce et à l'investissement, la résolution de la crise climatique et le renforcement de la résilience agricole. Le secrétaire d'État américain se rendra aussi au Rwanda du 10 au 12 août où il rencontrera des hauts responsables du gouvernement rwandais et des membres de la société civile pour discuter des priorités communes, notamment le maintien de la paix. Le secrétaire d'État se concentrera sur le rôle que le gouvernement rwandais peut jouer pour réduire les tensions et les violences actuelles dans l'est de la RDC, ajoute le communiqué.
Le président de la République appelle à la nécessité de numériser les archives de l'État. Il a souligné au cours toujours de la 70e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi ici à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a déploré l'incendie de l'immeuble de l'ex-Onatra lundi dernier. Il s'est même interrogé sur la coïncidence suspecte entre la surveillance suspecte de cet incendie avec des missions des organes de contrôle externes en descente dans les entreprises et services publics de l'État. On écoute une fois de plus Patrick Muyaya, ministre de la Communication, dans cet extrait choisi par Alain Hirong.
Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de numériser les archives de l'État. Le président de la République a déploré le violent incendie qui a ravagé une partie de l'immeuble SCPT Ex-Onatra sur le boulevard du 30 juin, occasionnant d'importants dégâts matériels et entraînant une perte irréversible de centaines de milliers de documents administratifs du domaine public. Les causes de ces sinistres majeurs restant à ce jour inexpliquées, il a encouragé les services spécialisés à mener les enquêtes appropriées afin de faire toute la lumière sur ces drames, car il y a lieu de s'interroger sur la coïncidence plus que suspecte entre la survenance de cet incendie avec des missions des organes de contrôle externes en descente au sein des entreprises et services publics de l'État. Face à cette situation, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité de numériser nos administrations publiques et toutes les entreprises du portefeuille de l'État, processus qui garantit un système de stockage fiable et sécurisé des données.
Et puis, élu gouverneur de Maïndombe au scrutin du 6 mai dernier, Rita Tabola est soupçonné par le candidat malheureux Frédéric Moinfoy de porter la double nationalité, notamment congolaise et belge. Dans une réquisition d'informations adressée au directeur général de migration, la cour d'appel de Kinshasa Matete invite celui-ci notamment à confirmer si l'identité belge attribuée à Rita lui appartient réellement. Contacté, Frédéric Moinfoy confirme l'authenticité du document et s'est réservé de tout commentaire. Du côté de Rita Tabola, son chargé de communication parle d'un faux fuyant, d'un règlement de compte et des fausses accusations. Plus de détails avec Irène Mbouma.
Pour permettre à la cour d'appel de Kinshasa Matete de vérifier les allégations portées par le sénateur Frédéric Moinfoy qui soupçonne Rita Tabola de porter la double nationalité, soit congolaise et belge sans renoncer à la première, il appartient maintenant au directeur général des migrations de confirmer à cette cour si Rita Tabola et Mpiambongo sont la même personne, de lui transmettre les copies des différents passeports qu'utilise Rita Tabola, puis d'indiquer leur nationalité. Ceci est contenu dans la réquisition d'informations adressée à la Direction générale des migrations par la cour d'appel de Kinshasa Matete. Ces allégations de Frédéric Moinfoy sont rejetées en bloc par Oscar Lukusa, chargé des communications de Rita Tabola, qui parle d'un acharnement.
C'est vraiment un acharnement pur et simple contre la personne de Madame Rita Tabola. Moi, je pense que ça, c'est un faux fouillant. Madame Rita Tabola est congolaise de père et de mère. Elle n'a pas une double nationalité. Elle est congolaise. La preuve en est que lorsqu'elle a déposé sa candidature, vous allez vérifier à la CENI. Vous verrez que Rita Tabola Doula, elle est congolaise, tout court. Donc, moi, je pense que ça, vraiment, c'est une instrumentalisation, règlement des comptes.
Signalant que Rita Tabola a confirmé définitivement gouverneur par le Conseil d'État saisi en appel par le candidat malheureux Frédéric Moinfoy, n'est pas encore investi. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province de Lomami, suppression de toutes les barrières illégales par le gouvernement provincial. Cette décision a été rendue publique mercredi dernier par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Esther Ndalafina.
Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a justifié cette décision par le fait que les barrières illégales qui existent dans la province de Lomami entravent les mouvements des personnes et de leurs biens sur les différents axes routiers. Eli Moulombo-Mbwebwe affirme que la population doit circuler librement dans la province. Cette décision soulage les usagers de la route qui déversaient des frais à chaque passage. Explication de Timothée Mbuyamba.
Nous sommes contents. Le gouvernement provincial a bien fait. Il a supprimé toutes les barrières, surtout celles de Nkumba jusqu'à Kabine. En allant, on payait 5 000 et au retour aussi, à chaque passage.
Signalons que cette décision intervient quelques jours seulement après l'investiture du nouveau gouvernement provincial. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, la société pétrolière italienne Eni vient de faire une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel au large d'Assigny, dans le sud-est du pays. Le gisement se trouve juste à côté du premier découvert l'année dernière. Il vient d'accroître de 25% les réserves de la Côte d'Ivoire et augmenter les ambitions de l'économie ivoirienne.
L'invité.
Le territoire de Niangara, situé à 165 km d'Iziro, chef de la province du Haut-Uele, fait face à la présence de plusieurs rebelles étrangers et des groupes armés locaux. Certains parmi eux organisent une administration parallèle, d'autres procèdent à des kidnappings des civils et au pillage des biens des habitants, ce qui a un impact négatif sur les activités socio-économiques de la population. Pour en parler, nous recevons Masikini Marindo, il est l'administrateur de ce territoire. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile, suivez.
Monsieur le directeur du territoire de Niangara, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a l'ONG Invisible Children qui mène des activités ici sur le terrain. Vous, en tant qu'autorité, je ne sais pas comment, quelle appréciation vous avez à faire par rapport à ce qui mène comme activité sur le terrain.
Vous le savez bien, nous sommes le territoire de Niangara. C'est un territoire post-conflit après les événements malheureux qui ont endeuillé des milliers de familles par l'ordre Army Résistance, qu'on appelle LRA. Et ça a endeuillé la population pendant des années, pendant des décennies. Alors, le territoire avait besoin d'un accompagnement. Parmi ceux qui ont été là pour nous accompagner, Invisible Children est venu à la rescousse. Elle a fait beaucoup de choses à Niangara dans la prise en charge de rescapés, de ceux qui sortaient. Elle a fait beaucoup de choses pour dans les domaines de communication, en maintenant, en subventionnant nos radios locales, évidemment. Et maintenant, elle est plus focalisée. En dehors de ça, il y a aussi les radiophonies. Elle a doté les territoires, parsemé les territoires ça et là avec des phonies pour que nous puissions avoir des informations de fin fond de notre territoire. Ça nous permet aussi, nous, acteurs sécuritaires, de nous outiller davantage pour prendre des dispositions afin de sécuriser notre population. En dehors de ça, elle est aussi très focalisée à Nambia, et une des chefferies de chefferie du territoire, c'est la chefferie Manziga, qui est pratiquement le ventre mou du territoire. Toutes les actions macabres se sont passées à Nambia. Vous verrez, il y a des groupements qui sont presque, je dirais, effacés à cause de ces affres de cœur.
Effacés à cause de qui?
Oui, je parlais de LRA.
Il y a combien de villages qui sont rasés par ces gens? Vous avez une idée?
Si vous passez ici, à côté ici, il y a un cas de concentration, un cas de déplacé qu'on appelle Kakaraka. Toute la population qui est là est venue de ces villages-là.
Quels sont les villages-là qui sont visés?
Il y a le groupement Naoko, il y a Kido, et il y a un groupement qui m'échappe.
Donc il y a trois groupements qui sont vidés. Depuis quand?
Qui sont vidés? Non, depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à ces jours.
Effacés?
Qui sont complètement effacés de la carte. La population est rentrée maintenant à la cité ici. Elle est en train d'évacuer ses occupations.
Ces gens vivent où?
On leur a donné un camp ici, et au centre-ville. Alors, ils ont trouvé le goût de rester plus ici en ville qu'au centre qu'en retournant chez eux. Mais il y a quand même quelques-uns qui commencent à rentrer timidement. Le chef fait aussi un effort pour les appeler à revenir pour faire la terre, cultiver, faire ceci, cela, mais les uns commencent à rentrer.
Vous avez parlé de la chefferie de Mandiga, là où il y a presque tous les groupes armés. On nous apprend qu'il y a les Seleka, il y a les Mbororo, on nous apprend qu'il y a les Ouda, il y a les Elera dans une partie. Qu'est-ce que vous faites justement pour que, apparemment, cette zone est oubliée, c'est comme si ce n'était pas Congo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut faire attention parce qu'après Goma, après Nord-Kivu, Sud-Kivu, ça risque d'être le nord-ouest de la RDC.
Le territoire du Niangara, c'est vraiment là où on a enregistré un nombre important de Mbororo. Les Mbororo sont vraiment très nombreux ici.
On connaît le nombre, l'effectif, c'est combien?
Non, ce n'est pas connu. Nous n'avons pas eu à enregistrer le nombre et à les enregistrer. Nous connaissons tout simplement que ce sont le Tchadien et le Centrafricain. À cela s'ajoute le Sud-Soudanais. Hein, qui sont des éleveurs nomades qui sont venus de cette façon-là. Ils sont nombreux ici et ils commettent beaucoup de bévues, ils sont pour la plupart des porteurs d'armes. Ça, c'est connu de tous. Alors, nous, à notre côté, nous faisons tout simplement de façon que la population ne puisse pas aussi attirer à... La cohabitation n'est pas aussi facile, hein. Bon, on ne veut pas assez que la population puisse entrer directement en contact pour les affronter, et c'est de cette façon que nous avons notre jet. Et à cela, il y a, on constate aussi deux fois la présence des Seleka ici.
Masikini Marine, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition, coordonnée par Pierrot et la Meji, sous la supervision de Alain Erung, était à la machine Mimi Kindou. Merci de nous avoir suivis.